Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on retourne en Afrique. 15 ans après la chute du maréchal président Mobutu, les églises de réveil d'inspiration évangélique ont imposé leurs lois. Usant de la crédulité d'une population sans espoir, les pasteurs du ministère de la foi abondante, de l'armée de victoire, etc., joue du miracle et de la sorcellerie. Les enfants en payent le prix. Ils sont plus de 20 000 à vivre dans les rues de Kinshasa après avoir été, pour beaucoup, accusés de sorcellerie. C'est le récit que nous fait Hippolyte, le bédéiste, dont on vous transmet les travaux de plus en plus. On va appeler cette histoire « Les petits sorciers ». Hippolyte s'est rendu à Kinshasa pour participer à un festival de bande dessinée organisé par le scénariste Apollo, qui vit sur place, et le dessinateur congolais Barly Baruti. Il explore l'univers de la BD congolaise et rencontre des dizaines d'auteurs. Il constate que ceux-ci, isolés, coupés de toute production étrangère, faute d'albums et de livres disponibles, en sont restés au style des années 70. « Ah ben, on a le droit de faire ça en BD ?» disent-ils souvent. Il rencontre Charlie Chimpaka, auteur d'un très beau travail dans le style comics, matinée de fantastique autour d'un super-héros noir combattant l'ancien président Mobutu. Il discute également avec un jeune auteur qui fut un shégué, c'est-à-dire un enfant de la rue. Son histoire intrigue Hippolyte, pour qui le phénomène des enfants de la rue est un révélateur de la société congolaise. Depuis la chute en 97 du léopard Mobutu, qui laisse derrière lui un pays ruiné, l'ancien Zaïre patine. 15 ans plus tard, la vie n'est ni pire ni meilleure, mais il y a l'usure en plus et l'espoir grignoté. C'est la disparition de tout horizon qui frappe Hippolyte. C'est aussi ce qui le pousse à vouloir raconter les shégués. Quand il retourne à Kinshasa, il s'installe chez son ami Charlie Chimpaka, qui vit dans une cité proche du quartier de la Gombe et du camp militaire de Kokolo. Charlie parle le lingala, il connaît Kinshasa et il est fiable. Tous deux sillonnent la ville en bus collectif pendant des jours et des jours, près d'un mois. Au début, Hippolyte se consacre tout entier au shégué. Très vite, il constate qu'il est impossible d'évoquer le sort des enfants des rues sans parler du mouvement des églises de réveil. S'il y a autant d'enfants dans les rues, c'est en partie à cause de ce mouvement qui, pour des raisons financières, instrumentalise les notions de miracle et de sorcellerie. Dans ce pays, les églises de réveil incarnent l'espoir, le seul espoir accessible. La population est comme endormie, anesthésiée par les discours de pasteurs. Un soir, Hippolyte discute avec un banquier congolais, de retour depuis 2 ans d'un exil en France. L'homme lui explique à quel point sa situation est difficile. « Mes collègues et amis me demandaient sans cesse quel était mon groupe de prière. Mais comme ça ne m'intéresse pas du tout, j'ai été mis au banc. » Sa femme, également congolaise, était banquière, à 2 500 $ par mois. Une fortune dans ce pays parmi les plus pauvres du monde. Elle a tout lâché, moi et la banque, pour se payer une formation de pasteur à 5 000 $. Comme le dit un Congolais rencontré par Hippolyte dans un bar, c'est compliqué. Oui, ça l'est. Dans le Congo, en pleine déglingue, les pasteurs sont souvent des escrocs. Les éducateurs, bien que membres d'églises de réveil, sont, eux, admirables. Les enfants des rues se battent et les dessinateurs s'efforcent de comprendre. En 1974, le stade du 20 mai de Kinshasa accueillait le combat du siècle, Mohamed Ali contre Foreman. 27 ans après, le pays, comme le stade, est en ruine. Là où se pressaient des milliers de Congolais célébrant la toute-puissance du président Mobutu, on ne trouve plus que des âmes errantes au milieu des parpaings et des policiers. Nous allons donc suivre Hippolyte dans son enquête. Et on voit Hippolyte qui est assis par terre au milieu de pierres, un carnet à la main, un dessinateur, ça dessine. Et derrière, un policier qui arrive. « Que faites-vous ? » ?»« Je dessine le stade. » »« Avez-vous une autorisation pour ça ?»« Pour un dessin ?» « Il faut une autorisation, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. »« Ah, il y a une loi contre le dessin ?»« Oui, vous pouvez me la montrer ?»« Vous voulez venir avec nous au poste ?» Une heure et demie plus tard, et après avoir épluché un texte fantoche, toujours pas de trace de l'interdiction. La liste des interdictions est impressionnante. Je ne vois jamais marqué dessin, carnet ou crayon. Les policiers et les militaires sont omniprésents dans le pays, quasiment jamais payés. Ils usent de leur uniforme pour racketter la population. Votre passeport ! Les éviter est devenu un sport national. Et croiser un policier le soir et souvent annonciateur d'interminables tracasseries et désagréments. Et Hippolyte, à qui on a demandé son passeport, présente son passeport, qui est évidemment rédigé en français, avec une belle en-tête République française. Alors ça change tout. « Chef, chef, il est adjoint au chef !» Et là, Hippolyte est presque libéré. « Bon, maintenant je vais y aller. Eh eh, donne 50 $ et on te laisse partir. » L'état de délabrement est tel que les policiers ne sont pas armés. Hippolyte est guidé par Bienvenue dans son enquête. Bienvenue est un personnage tout à fait intéressant. Ici, autour du stade, il y a beaucoup de chégués. Maintenant, ils sont dispersés. Ils ont dû aller sur le marché pour faire des petits boulots ou chercher quelque chose à manger. Mais le soir, à partir de 19 h, ils sont nombreux. Ils s'étalent par ici. Et Hippolyte demande: « Combien sont-ils autour du stade ?» Et Bienvenue. « Ah, plusieurs centaines, en tout cas. » Et dans Kinshasa ?« En tout cas, beaucoup, vraiment. » « Exactement, tu sais pas ?»« Non. » »« Je ne sais pas, mais tu en vois partout ici. » »« Et ça augmente ?»« Oh oui. » C'est plus tous les jours. Bienvenue est infirmier, éducateur au centre Pierre Munzihirwa, qui accueille les enfants de la rue, les nourrit, les héberge, les scolarise et tente de retrouver leur famille. Bienvenue vit et dort avec les enfants, chaque jour que Dieu fait, ou presque. Tu vois, là ce sont les enfants de la rue. Ils sont établis là-bas. Et cela, vous allez les voir?
Oui, pour les aider.
Certains veulent bien nous suivre, mais pas tous. Il y en a qui sont habitués déjà, vraiment.
Ils préfèrent rester dans la rue. Ici, ils sont libres. Ils peuvent faire n'importe quoi.
Ah, en tout cas, c'est vraiment négligé ici. Il faudrait réhabiliter.
Mais tu vois, si tu plantes une fleur ici, les gens te traitent de magicien, de sorcier.
Hippolyte, qui n'en revient pas, demande « Pour une fleur ?»
La sorcellerie est partout ici. Avant, c'était plutôt les vieillards qu'on accusait de sorcellerie, remarque Bienvenue.
Maintenant, c'est l'inverse. C'est chez les petits-enfants que l'on trouve la sorcellerie.
Les gens ne sont pas éduqués. Tu vois ces déchets? Quand j'étais petit, on se baignait par ici.
En tout cas, maintenant, il ne faut plus y penser.
Et pourquoi on accuse les enfants de sorcellerie?
Ah, en tout cas, pour tout. Si un enfant fait pipi au lit trop longtemps, on peut l'accuser de sorcellerie.
Pipi au lit?
Ou bien l'enfant est un peu turbulent. Alors, c'est qu'il est sorcier. Si un de ses parents meurt, on va l'accuser de l'avoir mangé pendant son sommeil, d'avoir mangé son esprit pendant son sommeil, d'avoir mangé son âme, on dit plutôt son âme.
Manger,
oui,
et d'être sorcier,
oui,
c'est fou.
Et alors les parents les jettent à la rue?
Oui, le plus souvent.
Et beaucoup d'enfants de la rue sont sorciers?
Oh, en tout cas, je dirais 80%.
Et tout le monde croit à ça?
En tout cas. Mais le vrai problème, c'est la misère.
La misère est endémique en République démocratique du Congo. Et elle gangrène le pays. 80% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. On parle de 95% de chômeurs. Et tout le monde se débrouille pour survivre. Depuis 20 ans, le pays est plongé dans la crise. Il n'y a plus d'espoir. Seul reste la musique et la religion. Et là alors, le commerce est florissant. Et s'ensuit une série de vignettes où est représenté un culte à l'église du réveil. Et voilà ce qu'on y entend. Mes frères, j'ai toujours rêvé d'être propriétaire. Grâce à Dieu, j'ai pu avoir ma première maison à 24 ans. Alors c'est le général Sonny Kaputa Rockman qui dirige l'église de l'armée de l'Éternel depuis 20 ans. Une des premières et des plus importantes églises du réveil à Kinshasa. L'église est dans de nombreux pays, en République démocratique du Congo, en Angola, au Cameroun, en France aussi, en Belgique, en Angleterre, au Brésil, en Inde, etc. Et elle compte des centaines de milliers de fidèles. Le général Sonny est également aumônier des armées de la République démocratique du Congo depuis 2008 et il continue à prêcher. Grâce à Dieu, j'ai maintenant une propriété dans chaque pays où notre Église est présente. Amen. Alléluia, alléluia. Et le général Sonny continue. À sa tribune où on voit un panneau « Armée de l'Éternel », Quartier général, organisation d'évangélisation, ASBL, sans but lucratif, croyez-vous. Et cette prêche est datée du 16 octobre 2011. Elle est visible sur la chaîne TV du général, la RTAE.
Alors le général continue. Pour moi, la voiture, ça a toujours été la Mercedes. Grâce à Dieu, j'ai pu acheter ma première Mercedes, oui mes frères. Et maintenant, chaque année, je peux m'offrir le dernier modèle de Mercedes, la 350 SL, oui mes frères. Amen. J'assiste à la messe avec bienvenue. Il fréquente cette église depuis 6 mois, comme beaucoup de Congolais. Il est religion gamme et fréquente plusieurs églises, celle de Sony et modérée, selon lui. Alors tout ce que vous avez entendu de la prêche du général Sony, c'est de la grande modération, bien entendu. Mes frères, voici venu le moment de semer. Rappelez-vous, le Seigneur vous a rappelé. Plus vous semez, plus vous récolterez. Amen. J'appelle d'abord ceux qui peuvent semer entre 100 et 1000 dollars. Approchez-vous, mes frères. Et tout le monde donne? Oui, ceux qui peuvent, selon leurs moyens. Et ils espèrent gagner de l'argent? C'est fou. Amen. Maintenant, mes frères, ceux qui peuvent semer entre 50 et 100 dollars. Gloire à Dieu. Alléluia. Le culte a lieu chaque dimanche et au moins 3 fois par semaine. L'Église promet d'autres miracles que la richesse, la guérison, la puissance, un exorcisme, etc. Bienvenue à donner 1 dollar. Et on se promène un petit peu dans Kinshasa et on voit les boutiques. À Kinshasa, Dieu est partout. Alors, première boutique, tout, on doit vendre de tout dans cette boutique. Et en dessous, tout marqué en très gros, marqué encore en plus gros, ça doit faire à peu près, par rapport aux fenêtres et à la porte, ça doit faire à peu près, je ne sais pas, 80 cm de haut, les lettres. Tout dépend de Dieu. La suivante, dépôt de boissons, gloire à l'Éternel. À côté, EMSE, Église missionnaire sanctuaire de l'Éternel. ERC, Église de réveil au Congo. Dieu est partout, omniprésent. Voici une boutique où on vend de tout. Vente, achat, articles divers. La boutique s'appelle Vision Divine. Et la suivante, Vatican Club. Alors des affiches le long des routes, bénédiction de l'Alliance, pharmacie don de Dieu. Une autre encore, la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ici, tout a une cause, rien n'est laissé au hasard. Et on voit une affichette sur une voiture. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et à la porte d'une église, un programme. Lundi, vendredi, 5h30, 6h30, culte matinal. Lundi, de 16h30 à 18h, intercession pour les familles. Mardi, 16h30, 18h30, culte d'enseignement. Mercredi, 16h30, 18h, réunion des mamans. Jeudi, 16h30, 18h30, culte miracle. Vendredi, 19h, 20h30, nuit de prière. Samedi, 16h30, 18h, formation. Dimanche, culte d'adoration, de 8h à 11h. Lundi, mercredi, vendredi, affermissement, de 9h à 13h. Dialogue pastoral, lundi, mercredi, de 10h à 15h. Et encore une boutique où on vend et on achète des congélateurs et aussi divers articles. Et la boutique s'appelle Établissement Gloire à Dieu. Si un malheur survient, c'est la sorcellerie. Si un bonheur arrive, c'est Gloire à Dieu. Hippolyte dessine toujours et partout. Là, les voilà au concert. Ses voisins le regardent dessiner. et commente. « Sympa le dessin !»«
Tu travailles au lycée français ?»«
Non, non, je suis ici en reportage. »«
Ah, sur la musique congolaise ?»«
Non, plutôt sur les chéguées, les églises de réveil, le rapport entre les deux. »
Et le voisin bavard qui conclut.
« C'est compliqué. » Hippolyte rencontre Anissé. Il le rencontre à l'IFASIC. L'IFASIC, c'est l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Anissé est un universitaire, journaliste. Il travaille sur les questions de sorcellerie et d'église. Le phénomène a démarré il y a 15 ou 20 ans. Avant, il y avait peu d'enfants à la rue. L'origine principale est la situation socio-économique du pays. Mais il y a des origines connexes. La non-cohésion familiale, tout d'abord. Les enfants sont issus de familles éclatées par la séparation ou par le décès. Très rarement, ils viennent de familles unies. Et Anissé continue. Le papa rencontre alors une nouvelle femme qui va préférer ses propres enfants et tenter d'écarter les autres. Car ici, il y a très peu à partager. Souvent, pas assez pour chaque enfant. Ensuite, il y a le problème des églises de réveil qui ont pullulé ces dernières années et qui ont cette manie de trouver des sorciers dans toutes les familles. Nous, quand quelque chose ne va pas, on a souvent tendance à chercher la solution dans les esprits. On attribue la cause aux ndoki, les sorciers. Quand un enfant est accusé d'être sorcier dans la famille et que l'église du réveil amplifie cela, alors, la famille abandonne carrément l'enfant et le jette à la rue. Aujourd'hui, la sorcellerie a gagné les enfants. Ils se la donnent entre eux. C'est considéré comme contagieux. On croit à la sorcellerie. C'est rare que dans une famille, il n'y ait pas d'enfants sorciers, selon les églises du réveil. Anissé continue. À chaque obstacle, elles trouvent un bouc émissaire. Elles ont un pouvoir considérable. Les fidèles se mettent au pas et suivent tout ce qu'on leur dit. Leur perception même de la vie peut changer à cause de ces églises. Et chaque jour, des gens s'improvisent pasteurs. Oui, oui, il n'y a pas d'emploi. C'est rentable et il ne faut aucun diplôme. Ensuite, on dit aux gens, Dieu va agir, semez et vous récolterez. On ne les encourage pas à travailler. Tout vient du ciel quand on a semé. Si nous continuons à fonctionner ainsi, il n'y a pas d'espoir. Il ne faut pas attendre un réveil de la population avec les églises du réveil. On endort les gens dans ces églises-là. Et puis, il y a le fait que les enfants de la rue grandissent. Ils ont créé des familles dans la rue. Les hommes volent, les femmes se prostituent. Et puis, il y a des enfants qui ont choisi la rue. Mais encore une fois, si tout allait bien, les familles seraient unies, en tout cas.
Oui, je suis né ! Oui, c'est bien moi !
Et Hippolyte demande, « Vous aviez une émission de télé, c'est ça ?»«
Oui, pendant 10 ans. Émission sur le paranormal. Et puis, j'ai écrit pas mal d'articles sur le sujet. » Plus mon travail comme professeur et encore une autre activité.
Ah bon?
Oui, mais c'est pas important.
Ah, vous m'en avez trop dit. Allez au bout.
Je suis pasteur.
C'est compliqué, conclut Anissé. Je me rends chaque jour au centre Musy-Rivois où travaille Bienvenue. Le centre se trouve à Mintonge, un quartier de Kinshasa, et accueille une vingtaine d'enfants de la rue de 5 à 14 ans. il est divisé en deux parties. D'un côté, les bureaux avec la cantine et les réserves. De l'autre, les dortoirs des enfants et de bienvenue, ainsi que les douches. Et puis, en plein milieu, se trouve une église de réveil. Et il y en a encore, une juste à côté, une autre à 50 mètres. Et puis plus loin, là-bas, une autre. En tout cas, il y en a partout maintenant, vraiment. Le premier contact se fait avec les enfants, par le dessin. Nous montons un petit atelier de bande dessinée qui va durer 3 semaines. On espère ainsi pouvoir lier une relation de confiance avec eux. Et on voit les enfants qui écrivent, qui dessinent de partout. Comme ils n'ont pas de table, eh ben, ils ont des chaises par contre. Alors, ils s'asseyent sur une chaise et sur une autre chaise, ils se servent. Ils font comme si c'était une table. Ils sont un peu pliés, bien sûr, mais ils écrivent et ils dessinent sur la chaise. L'accueil des enfants est très enthousiaste. Ils ont tous été abandonnés et portent une lourde histoire. Mais ils se réjouissent de cette parenthèse et cherchent désespérément attention et affection, comme des enfants. Au bout de quelques jours, nous commençons à recueillir les histoires des enfants. Elles sont toutes différentes, mais la sorcellerie occupe une place importante. Ils se livrent sans mal, presque avec envie. Ils ont besoin de raconter leur histoire, et ils le font avec l'aplomb d'un adulte. La maman de Ramsès est morte après être tombée gravement malade. Il a été accusé du malheur avec son frère. On les a dit sorciers. Il n'y a pas de hasard. Rapidement recueilli par le centre, il n'a quasiment pas connu la rue. Son petit frère est en France depuis une année. Il a été adopté. Ramsès devrait suivre. Il a 10 ans. Et vit au centre depuis 5 ans. Jean-Baptiste est sourd-muet. Il est au centre depuis maintenant 6 ans. Nous ne pourrons évidemment jamais connaître son histoire, son parcours. Il reste avec nous pendant que les autres se racontent. Les parents de David se sont séparés. La maman est tombée malade. Et David et sa sœur ont été chassés par le nouveau mari. Taxé de sorcellerie. Il n'y a pas de hasard. Ils survivent dans la rue, sont frappés et volés par les plus grands. Il fait froid, sa sœur tombe malade. David court partout pour trouver de la nourriture. Il retrouve sa sœur, au petit matin, dans le canal, au milieu des ordures. Morte. Elle avait 6 ans. Il a depuis été recueilli par le centre. La maman d'Abdoul a été tuée alors qu'elle allait chercher à manger. Son père, qui travaille en Angola, le confie, lui et sa sœur, à sa grand-mère. Mais elle privilégie ses autres enfants, maltraite Abdoul et sa sœur et ne leur donne jamais à manger. Sa sœur tombe malade. Les voisins s'en prennent à la grand-mère et Abdoul est recueilli par le centre. Voilà 1 semaine qu'il est ici. Sa sœur est restée là-bas. Le centre n'est pas mixte. Abdoul s'inquiète pour elle, car ils sont jumeaux. Jephté. Jephté habite chez sa grand-mère, qui lui interdit de sortir. Il sort quand même et se fait shooter par une voiture. Pour ça, il est accusé de sorcellerie. Son autre grand-mère ne veut pas l'accueillir. Elle a peur du jeune sorcier. Il est jeté à la rue à 8 ans et dort dans des carcasses de voitures pour se protéger. Son grand frère le retrouve et le dépose au centre. Son père et sa mère ne savent pas qu'il est ici. Jephté, lui, ne comprend pas ces histoires de sorcellerie. Emmanuel vient de loin, de Kisangani. Il a pris le bateau avec sa mère pour Kinshasa, où vit une partie de sa famille. Sa maman attrape la malaria et meurt. « Mon fils, tu es courageux. crois toujours en Dieu et tu seras une bonne personne. » Ce sont les derniers mots de sa maman. Le grand-père l'accuse de sorcellerie. Sa mère serait morte par sa faute. Il passe 2 jours dans la rue. Sa tante le retrouve et le dépose au centre pour qu'on s'occupe de lui. Elle ne peut pas le garder, car elle craint la réaction du grand-père, qui pourrait l'accuser d'être elle aussi sorcière. Love a 5 ans. Il a été abandonné sur un marché. Lui croit qu'il s'est perdu. Il a marché, 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 des jours et des nuits, le long des rails, à la recherche de sa maison. Les gens l'ont recueilli et amené au centre. Il est ici depuis 1 semaine et espère rentrer bientôt. Paulin vient de très loin, du Kassai. Sa mère l'a confié à un ami de Kinshasa pour qu'il puisse étudier convenablement. Paulin est l'aîné de la famille. Mais la personne l'a abandonné aussitôt arrivé. Une maman l'a ramassé dans la rue et déposé au centre. La maman de Paulin ignore où se trouve son fils. Gloire a été accusé de sorcellerie après la mort de sa maman. Il a vécu l'enfer, torturé, battu, trimballé d'église en église, de pasteur en pasteur, pour être exorcisé, enfermé dans des sacs suspendus en l'air pendant des jours, frappé avec des courroies de voiture, affamé, brûlé. Il a avoué tout ce qu'il a pu pour que le cycle infernal s'arrête, enfin. Mais les pasteurs n'en avaient pas assez et ont recommencé de plus belle. Alors, Gloire a fui pour survivre. Son histoire est la plus terrible, si tant est qu'on puisse classifier des récits aussi bouleversants. Gloire nous l'a raconté, dans les moindres détails, pendant 1 heure et demie. Et Hippolyte est bienvenu, commente la vie au centre. Bienvenu donne sa vie pour les enfants, depuis 12 ans. Il est avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il me donne tellement. J'aime être avec les enfants. Le dimanche, il enfile ses plus beaux habits pour chanter avec sa chorale. À l'église de Sony, l'armée de l'Éternel. Mais c'est juste pour chanter. Tu fais pas partie du truc. En tout cas, Sony est plutôt modéré. Et puis, il prêche bien. Mais il croit à la sorcellerie, non? Je crois qu'il pratique seulement des prières. Il est modéré, vraiment. Et toi? Tu crois à la sorcellerie? Ah, je suis chaque jour avec les enfants depuis 12 ans. En tout cas, je ne me suis encore jamais fait manger dans mon sommeil ou étrangler. En tout cas, ce ne sont que des enfants. La plupart des enfants retrouvent leur famille après être passés par le centre. En tout cas, on arrive à convaincre les familles de reprendre ces enfants. Et qu'ils ne sont pas sorciers. Mais c'est très long. Et les premières fois, on peut se prendre des pierres. Alors on y retourne, encore et encore. Au final, en tout cas, on y arrive, vraiment. Beaucoup d'anciens pensionnaires repassent au centre et ils parlent aux plus jeunes. En tout cas, ça fait du bien. Vraiment. Mais cette récompense est une goutte d'eau face à l'ampleur du phénomène. Et il se crée chaque jour plus d'églises que de centres, et les choses ne sont pas prêtes de changer. Et comme Mobutu avait ouvert la voie aux évangélistes, le pouvoir continue cette influence. Et voici la parole d'Azarias Rouberva, vice-président de la République, à la conférence du leader chrétien. Lorsque Dieu décide d'agir, personne ne peut s'opposer.
Je suis le paranormal.
Et comme l'art est souvent le refuge et le remède au désespoir, on voit ça en particulier à Haïti, avec ses peintres et ses poètes, on rencontre à Kinshasa Freddy Tsimba, qui est sculpteur. Et on entend des cris au feu et des malédictions diverses. « C'est pour moi tout ça, c'est pour moi, » dit Freddy. « Tous les jours à 5h30 du matin, ils me traitent de sorcier. Ces gens-là, ils croient qu'ils ont l'autorité. » C'est un des artistes majeurs du Congo. Depuis un an, une église de réveil s'est installée à côté de son atelier. « Regarde, lui, c'est un pasteur, un bon pasteur. Il doit pardonner aux autres. Accepter que si je suis là, il y a aussi de la place pour les autres. Mais non, il peut me tuer. Pour lui, si je tombais maintenant, ça serait seulement sous la pression de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Ah, Dieu a prouvé qu'on est là, que l'on agit. Vous êtes pour nous ou vous êtes contre nous ? Voilà ce qu'ils disent. On connaît bien le slogan, hein ? Et si vous êtes contre nous, on vous attaque. Tu vois ce qu'ils font ? Alors, ce qu'ils font, je vous détaille. On nous a dit que Freddy Tsimba, le sculpteur, habitait à côté d'une église du réveil. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'église du réveil s'est étalée, disons. Elle a mis tous les sièges du public qu'elle attend. Elle a étalé tous les sièges dans la rue, sur le trottoir, et devant la porte de Freddy. Ce qui fait que si on veut voir les sculptures de Freddy, faut attendre que l'église ait plié bagage, et c'est pas pour demain. Mais est-ce que Dieu n'est pas un Dieu clément qui veut que tout le monde vive en harmonie ? Se demande Freddy. Moi, j'expose partout dans le monde. Je vois comment ça se passe ailleurs. Je pense librement. Et ça leur fait peur. Eux, ils endorment les gens pour mieux leur prendre leur argent. Ici, les gens savent que je suis artiste, mais ils ne savent pas le travail que je fais. Je vous le détaille comme je peux. Freddy ramasse dans les rues... des fourchettes, des couteaux, des cuillères, il y a surtout des cuillères. Il les ramasse, ça et puis quelques autres objets métalliques, et il va créer des sculptures. Ça se fait ici de plus en plus. On en voit à la Garonne Expose en particulier, des sculptures de récupération. Alors lui, il fait des personnages. Des personnages qui, à mon avis, représentent la fin. F-I-M. Hippolyte reprend la parole. Le soir, j'assiste au culte du prophète Nkiéré, le voisin de Freddy Tsimba. Tout le décorum est en place, rien n'est laissé au hasard, et les petites mains s'affairent de toutes parts. Et voilà la prêche du prophète Nkiéré. À travers moi, j'ai vu des résurrections des morts, des aveugles voir, le sourd entendre, le paralytique marcher. Ces pasteurs vendent du rêve, de l'espoir. Comme les gens n'ont plus rien, ils sont prêts à croire à tout, et souvent à n'importe quoi, nous dit Freddy. Et le prophète reprend. Une fois, j'ai prié pour 500 femmes qui avaient des problèmes de fécondité. Et d'un coup, Dieu en a guéri 300. Dieu réalise des prodiges extraordinaires à travers moi. Et Freddy nous précise, ils endorment les foules et les affament. Et le prophète reprend, dans mon sommeil, le Saint-Esprit m'a montré un enfant, et cet enfant est toujours malade. Vous avez dépensé pour la vie de cet enfant, et vous êtes arrivé au bout. Et Dieu m'a dit, cet enfant devrait déjà être enterré. « Lève-toi !» Et Dieu m'a dit, « Cet enfant, je vais le guérir. Montre l'enfant. » Et le prophète, « Père, par le don que tu m'as donné, je vais guérir cet enfant. » Et il souffle sur l'enfant, en proclamant, « Je l'arrache des mains de l'ennemi, je l'arrache des mains de l'ennemi. Maintenant, je proclame la bénédiction. Amen. Venez encore chaque jour de cette semaine de miracles. Semez et vous récolterez. »
Oh, femme, j'ai connu le bien et le mal, dans la joie et dans les larmes.
Alors comment est-ce que cet escroc arrive à faire croire à des miracles? Moi, ça me fait penser aux séances d'ostéopathie. Or, les ostéopathes qui ont une formation qui est exclusivement anatomique, les ostéopathes connaissent très très bien toutes les régions et toutes les fonctions du corps humain, même les nerfs et tout ça, même ce qu'on ne voit pas. Les ostéopathes, les rebouteux, comme on disait dans mon enfance à la campagne, ces gens ont une véritable science. Par exemple, un ostéopathe m'a expliqué que mon problème de canal carpien, c'est un problème qui est très très répandu, le canal carpien c'est l'articulation qu'il y a au poignet. Et quand ce canal coince entre les nombreux os du poignet, quand ce canal coince des nerfs, il y a des fourmillements qui finissent par être très douloureux, ça finit en brûlure, en sensation de brûlure. Et l'ostéopathe me dit, mais c'est tout simple, il faut juste que votre main soit dans le prolongement du radius et du cubitus. Hein, la main doit être dans le prolongement de l'avant-bras et pas pliée en avant ni en arrière. Si on met la main dans le prolongement rectiligne de l'avant-bras, eh ben les fourmillements et les brûlures s'arrêtent. Alors ça, évidemment, on peut faire passer ça pour un miracle, c'est seulement de l'anatomie. Une autre chose, un autre cas qui pouvait passer pour un miracle, enfin qu'on pourrait faire passer pour un miracle, il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, qui ont des brûlures d'estomac. Des brûlures d'estomac, et quand on fait une radio, eh ben, on voit qu'ils ont juste au-dessus de l'estomac, dans l'ésophage, on voit qu'ils ont une hernie. Ils ont une boursouflure. Et ce qu'ils ont mangé, il y a une partie qui reste dans cette boursouflure, ça fait comme un petit sac, et ça s'oxyde. Ça s'oxyde et ça renvoie dans le tube digestif et jusqu'à la bouche, ça renvoie des brûlures. Alors on vous donne des médicaments pour neutraliser cette acidité. Et l'ostéopathe m'a dit, mais vous n'avez pas besoin de médicaments, vous couchez sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur le côté gauche, tous les viscères qu'il y a sur le côté droit vont appuyer sur l'ésophage, sur la région qui est douloureuse. Et ils vont vider la petite poche, l'hernie, ce qu'on appelle une hernie hiatale. Le foie qui est très lourd va appuyer sur l'hernie et il va la vider. Et ce qu'il y a dans l'hernie, ben ça va descendre tranquillement dans l'estomac et suivre une digestion normale. Il n'y a pas besoin de médicaments. Et pourtant, il y a un médicament dont je ne vais pas donner le nom parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès, mais c'est un des médicaments, c'est vendu autant que l'aspirine ou le paracétamol. Et ça ne sert strictement à rien. Tandis que si vous dormez allongé sur le côté gauche, le foie fait le travail, il appuie sur l'hernie hiatale, l'hernie se vide, ce qu'elle contenait va se faire digérer dans l'estomac et tout ira très bien. Ce n'est pas un miracle, c'est de l'anatomie. On continue la promenade et on rencontre Teka, qui est le nouveau directeur du centre où travaille Bienvenue. Il est à Kinshasa depuis un an. J'ai passé 8 ans en dehors du Congo, surtout en Irlande et en Angleterre. J'ai vu l'État s'occuper des délaissés de la société. Ici, l'État ne s'occupe de personne. et c'est la raison d'être de ce centre. On a beaucoup d'enfants dans nos rues. On a beaucoup d'enfants chassés des familles et personne ne s'occupe d'eux, alors que ce sont des enfants. Ces enfants ont un avenir. Nous devons faire quelque chose. Mais nous sommes dans un pays où l'État est démissionnaire. Pour certains, il n'existe même pas. La société a une part énorme dans cette détresse. La crise a amené des situations assez critiques que j'appelle même dangereuses pour les familles, parce qu'il est arrivé des moments où dans les familles, on devait choisir les enfants à qui on donnerait de la nourriture. Il fallait choisir, parmi nos enfants, il fallait choisir ceux à qui on allait donner à manger. La famille s'est donc retrouvée un peu démissionnaire vis-à-vis des enfants, à cause de la crise. Malheureusement, la crise s'est accrue. Et quand on demande à quelqu'un de se débrouiller, eh bien, il se débrouille, hein, ce qui donne délinquance et prostitution. D'autre part, il y a la sorcellerie dont on parle tant et qui fait que dans beaucoup de familles, les gens ont peur. On leur dit, voilà, cet enfant est sorcier, cet enfant est la source du malheur qui frappe votre famille. Peut-être que le papa s'est fait licencier parce que l'enfant l'a maudit. Quitte à vérifier si c'est vrai. Mais c'est ce qui se dit alors. Et il ne veut plus voir cet enfant. Dans les familles, on dit « telle personne est morte parce que cet enfant l'a mangé ». A mangé son âme. Hein. Alors il y a une certaine peur, une psychose qui s'installe. Alors il vaut mieux se débarrasser de cet enfant. Sinon, c'est moi qui peux disparaître. Nous dit le chef de famille, à qui on demandait un peu des comptes. Eteka continue. Quand j'étais enfant moi-même, on guérissait les rares enfants que l'on qualifiait de sorciers. On allait chez le chef spirituel de certaines églises africaines indépendantes et finalement on arrivait à dire que ces enfants n'étaient pas du tout sorciers. Maintenant, dès qu'on déclare un enfant sorcier, on préfère se débarrasser de lui. Mais un fait réel est que avec la prolifération des églises de réveil, on voit des esprits partout. Les gens vous parlent d'esprits de ceci, d'esprits de cela, esprits des morts, esprits de chômage. Tout est devenu esprit. Les gens ont comme une soif d'écouter tous les pasteurs. Toutes leurs paroles font autorité. Ils me disent que cet enfant est sorcier et qu'il faut s'en débarrasser. Le pasteur l'a dit. Je l'écoute, les églises ont un grand pouvoir sur les gens. Les gens sont en quête d'espoir. La situation est tellement noire qu'on aspire à voir une lumière. Malheureusement, elle ne vient pas. Dans le noir, on entend comme une voix qui nous dit « Écoutez, écoutez, il y a une lumière quelque part. » Et puisqu'on espère une lumière, on finira par la voir. Avec un peu d'imagination. N'attendez rien des hommes, faites de Dieu votre priorité, il vous aidera à poursuivre votre rêve. Malheureusement, ce ne sont que des illusions. C'est ce qui inspire les pasteurs du réveil, qui encouragent leurs fidèles à croire à des rêves. Pour quelqu'un dans le désespoir, toute promesse est source d'espérance. Ne tombez pas dans le piège, il y a tant de choses à la radio, tant de choses dans les journaux. Écoutez le pasteur. La personne est en crise. Tout ce qu'on lui propose, elle l'accepte, car elle a perdu toute objectivité. C'est un peu comme si ces personnes étaient dans l'eau et se laissaient emporter par le courant. Jusqu'où, on ne sait pas. Et le pasteur qui brame « Peu importe ce qui arrive, poursuis ton rêve !» Ça, c'est pour déresponsabiliser le public. Que tu aies une grossesse non désirée, un diplôme sans travail, un mari gênant, poursuis ton rêve. Ne vis pas au-dessous de ton rêve. Alléluia. Là, ils vont faire n'importe quoi. Le degré de pauvreté atteint par les gens est tel qu'à la moindre personne qui a réussi, ça devient un modèle. Et quand ils voient le pasteur avec ses beaux habits, exhibant sa belle voiture, ses richesses, et qui dit avoir réussi grâce à Dieu, ils se disent que eux aussi, ils peuvent réussir. La journée, les enfants des rues ramassent des bouts de charbon, portent des caisses, poussent de vieilles carcasses de voitures contre quelques francs. Le soir, ils dorment sur des cartons, s'enroulent dans les banderoles de la prochaine croisade évangéliste ou se cachent à l'intérieur du cimetière automobile le plus proche. Ils se regroupent souvent entre eux pour se protéger les uns les autres et dorment en tas difformes. Le phénomène est suffisamment ancien pour que l'on voit maintenant émerger des familles de chéguées, des anciens enfants devenus de très jeunes parents directement dans la rue. C'est le cas des parents de Jérémie. Ses parents, ils vivaient dans la rue. Un jour, le père a pris son fils et l'a déposé au centre, sans rien dire à la maman de Jérémie. Le père passe parfois au centre voir son fils. Il est souvent ivre, mais il garde un œil sur lui. Jérémie est au centre depuis 2 ans. La maman de Jérémie est venue aujourd'hui. Le papa lui a enfin dit où se trouvait son fils. C'est une bonne nouvelle, mais il va falloir être patient. Sa maman dit qu'elle n'est plus dans la rue, qu'elle vit chez sa grand-mère. Nous devons être sûrs que tout ira bien pour Jérémie. Nous devons vérifier, mais c'est une bonne nouvelle.
Ou Algérois, paysans et étudiants, tour à tour.
Retour à la salle de concert avec Buvette. Hippolyte continue son enquête. « Je comprends pas. Bienvenue. Anicet, le journaliste, ils sont tous soit pasteurs, soit dans des églises de réveil. Je comprends pas.
C'est compliqué.
Ah oui, alors. Et on entend une musique. Tu connais ça? Verrasson. Une des plus grandes stars ici. » Avec Papa Wemba, Kofi. Oui, oui, c'est lui qui a pris position pour les Chéguées, non? Oui, c'est la star des Chéguées, leur grand défenseur. Et les chanteurs ont un poids énorme ici. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Bon, le frère de Verrasson est pasteur. Et malgré ça, il défend les Chéguées. En tout cas, c'est super compliqué. Il n'y a pas longtemps, il a assisté à un culte de son frère et il a vu l'argent qu'il ramassait en un week-end. Du coup, il a conseillé à sa femme d'ouvrir sa propre église de réveil. Et on retrouve le pasteur Sonny, le modéré. « Mes amis, l'Éternel vous demande $30 pour le carburant de ma voiture. » $30, mes amis. Je veux 3 personnes avec $10. 3 bons frères, 3 serviteurs de Dieu. Dieu vous regarde. Et on a peur, et on paye, et on espère. Les églises ne disparaîtront pas. Nous le savons, le mal est trop profond. Nous dit Teka, il sait de quoi il parle. Nous essayons maintenant de discuter avec elle pour les modérer. Avons-nous le choix? C'est compliqué. Pasteur, c'est sans doute le job le plus rentable en ce moment au Congo, conclut le sculpteur Freddy. Avec un tel job, ils nous affament pour se gaver, eux. Ces églises endorment les gens, génèrent beaucoup d'argent, et tiennent la population au calme en les abrutissant. L'homme qui vit, c'est un homme qui voit sa réalité. Et si cette réalité n'est pas bonne, alors il agit, il prend des dispositions. Mais non, ici personne ne fait rien. On subit tout. Avant de partir, je voulais connaître le rêve de ses enfants, nous dit Hippolyte. La plupart veulent devenir président. Mais Gloire veut un peu plus. Président des États-Unis, comme ça je pourrais aider le Congo, vraiment. Les gens auraient de quoi vivre, et puis je pourrais aider ma famille, comme ça ils comprendraient que je ne suis pas sorcier, et on pourrait à nouveau vivre ensemble, comme une vraie famille. Voilà à quoi rêve un enfant chégué.
Bien plus puissant qu'un roi, et plus démuni qu'un mendiant.
À la fin des années 80, le président Mobutu encourage fortement l'implantation des églises de réveil. Leurs sympathisants voient dans le Congo-Kinshasa un nouveau terrain d'évangélisation. Ils entendent aussi contrer la montée en influence de l'islam. Deux temps forts marquent leur implantation. L'arrivée des missionnaires américains dans les années 80, dont l'évangéliste américain Tommy Lee Osborne en 1980, et l'ouverture politique décrétée en 1990, année pivot pour le pays qui s'appelait encore Zaïre. On compte aujourd'hui des milliers d'églises de réveil à Kinshasa, et ils s'en créent chaque jour. Il n'y en avait que 20 dans les années 80. Elles touchent toutes les populations, du riche au pauvre, et reçoivent un soutien direct ou indirect des églises pentecôtistes et évangéliques américaines. Freddy, le sculpteur, ancien élève de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, il puise dans la rue ses principales sources d'inspiration. Il passe son temps à marcher, à ramasser des objets, à les souder, à les assembler. L'image vue à la télévision d'une femme somalienne courant, son bébé dans le dos, pour chercher des sacs de nourriture du programme World Aid, le hante. Il veut raconter cette femme, le poids de la famine, de la guerre, des armes. Il part alors au Katanga, au centre du pays, pour ramasser des douilles de balles disséminées un peu partout, inlassablement pendant des mois. Après un long séjour en prison pour ce crime, il rentre à Kinshasa avec les douilles et commence à les assembler pour sculpter des corps de femmes enceintes constitués de ce maillage de balles. Depuis 1998, les différentes associations et organisations non gouvernementales qui s'occupent des problèmes de la jeunesse au Zaïre ont mis sur pied une structure dénommée le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, REGER, REGER, dont le siège est basé dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa. La structure s'occupe des enfants en rupture familiale, communément appelés chégué ou enfants de la rue, enfants orphelins, enfants de familles démunies et surtout ceux qui ne sont pas accompagnés. Selon les statistiques du REGER, 13 875 enfants de la rue ont été enregistrés lors du recensement de 2006. 5 ans plus tard, leur nombre est estimé à 20 000. Phénomène nouveau, on dénombre maintenant tous les mois une moyenne d'une soixantaine de naissances dans la rue, des enfants nés de familles de chégué, soit 23 nouveau-nés par jour. 3 000 enfants sont encadrés par le REGER à Kinshasa. Voilà, vous en savez autant que moi sur les enfants des rues, les chégué du Congo. Je vais essayer de vous faire quelque chose de moins triste la prochaine fois. Merci de votre écoute. À bientôt.
Bien plus puissant qu'un roi. Bah, Islamien ou Algérois, paysan et étudiant, tour à tour, homme ou femme, j'ai connu le bien et le mal, dans la joie et dans les larmes, je suis l'être.